Aujourd'hui, bien l'Église nous propose de méditer sur le fondement de l'Église elle-même. Et ce fondement, outre le Père qui a envoyé le Fils qui l'a fondé, c'est l'Esprit Saint, comme le dit Jésus dans ce passage de l'Évangile, parce qu'il anime l'Église. L'Église est divine par nature. Aucune autre institution humaine ne peut être comparée à elle. Elle provient de l'au-delà du monde. Elle provient de l'éternité. Et elle est animée par l'éternité. L'Église, son but fondamental, c'est de nous mettre en relation avec Dieu. Dans une église, eh bien, on vient prier. Et prier, eh bien, ça veut dire communiquer avec Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. L'Église est un lieu vraiment sacré à ce titre-là. Et avant même de savoir ce que ça rapporte, ce que ça produit, ce que ça engendre, la gratuité nous oblige à nous présenter devant le Seigneur au moins une fois par semaine, le jour qui lui est consacré, pour faire sa volonté, pour lui faire plaisir aussi fondamentalement. Oui, l'Église est animée par l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Et cet Esprit Saint est totalement fidèle aux paroles de Jésus. Nous avons la mémoire courte et en même temps, nous recevons une parole, celle des Évangiles, mais il nous faut du temps pour la saisir, pour la digérer, pour la comprendre profondément. Et l'Esprit Saint est là, à toutes les étapes de ce cheminement de compréhension, de contemplation de la parole de Dieu pour nous faire naître à une vie nouvelle réellement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde, dit Jésus. La paix habite toutes les églises. La paix que Jésus nous donne, elle est intérieure. Le monde se contente de donner une paix extérieure lorsqu'il y parvient. Mais la paix intérieure, elle, est un trésor. Parce qu'avec la paix intérieure, eh bien, il y a le bonheur, il y a l'équilibre, il y a le jugement, il y a tous les dons de l'Esprit Saint lui-même. On pourrait dire que l'Esprit de paix, c'est l'Esprit Saint en tant que tel. Alors cette Église, nous savons bien tous les défauts qu'elle peut avoir lorsqu'on la regarde dans son histoire humaine. La participation des hommes est requise. Et ainsi, les Actes des Apôtres nous rappellent le premier concile de l'Église, on l'appelle le concile de Jérusalem, c'est le texte que nous avons entendu. Eh bien, certes, l'Esprit Saint est là, mais l'Esprit Saint ne parle pas, il parle clairement à nos cœurs, mais il ne parle pas clairement à nos oreilles. Alors il faut réfléchir, il faut se concerter. C'est le sens des consignes, hein, se réunir. Pourquoi ? Pour discerner la volonté de Dieu. C'est le but de toutes les réunions ecclésiastiques, ou ce devrait être le but de nos réunions ecclésiastiques. Le concile de Jérusalem, comment ça se procède ? Eh bien, Paul et Barnabé entendent, lorsqu'ils sont... je ne sais plus dans quelle ville, mais peu importe, et ils entendent des gens qui viennent et qui, de leur propre chef, eh bien, prêchent la nécessité de la circoncision. Alors, circoncision, c'est une bonne chose en soi, c'était un symbole d'appartenance au peuple élu. Tu circonciras tes mâles, dit le Seigneur dans l'Ancien Testament, comme preuve de l'appartenance, parce que tu aimes mon peuple. Mais Paul réfléchit, Barnabé aussi, c'est bien que tant une bonne chose, est-ce que ça a une signification dans l'Alliance Nouvelle, car Jésus est venu apporter une alliance totalement nouvelle, et ouvrir non plus la porte pour entrer à l'intérieur d'un peuple déterminé, le peuple hébreu, mais pour entrer dans autre chose, pour devenir des enfants de Dieu. Le peuple hébreu, être circoncis, c'était la marque d'appartenance au peuple saint. Mais ça donnait quoi ? Ça donnait des droits terrestre, matériel. Or, l'Église, elle, ne donne pas ce type de droit ni de bénéfice en particulier. Elle donne autre chose de bien plus précieux, le salut de l'âme. Donc, Paul, Barnabé se disent, oui, bien que bon, c'est pas la peine de garder ce signe-là. Au contraire, ça deviendrait ambigu. Et au Concile de Jérusalem, tous les apôtres n'étaient pas du même bord. On sait que Pierre hésite à aller chez le centurion Corneille, parce que c'est un païen, et qu'on ne peut pas, les païens, enterrer leurs morts dans leur maison, et donc il aurait pu être rendu impur. Et il faut que Dieu lui envoie une vision. Vous voyez, l'Esprit Saint a beau être là, eh bien, il nous faut réfléchir, et c'est petit à petit qu'on parvient à discerner sa volonté. Et c'est pas toujours si facile. L'Apocalypse, dans la seconde lecture, nous montre une vision très, très divine de l'Église. Elle vient du ciel. C'est l'Église céleste, la Jérusalem céleste. Et pourtant, il y a 12 portes avec le nom des apôtres. Elle demeure fondée sur les apôtres, bien que venant du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée vient de Dieu. Mais Dieu greffe son idée vraiment dans le monde et d'une manière très concrète à travers les 12 apôtres. On pourrait dire que les 12 portes symbolisent la tradition de l'Église, son magistère. Et on ne peut pas rentrer par l'Église par d'autres portes que celle-là. Alors tous ceux qui veulent entrer dans l'Église au nom de la liberté, pour se faire leur propre religion, par exemple, je ne sais pas, disons ceux qui disent « Ah ben non, on ne ressuscite pas, on se réincarne. » Bon ben ceux-là ne rentrent pas par l'une des 12 portes. Et donc il n'y a pas de garantie. L'Église ne peut pas se porter garante de leur salut à partir de ce moment-là. L'Église se porte garante du salut en fonction du message évangélique qu'elle conserve, qu'elle médite, qu'elle enseigne. Elle ne peut pas, elle est servante, l'Église. Il ne faut pas lui demander de changer la révélation, de prendre la place de Jésus. Ce serait une très très grave erreur, très pernicieuse pour tous les hommes. L'Esprit Saint, je le disais, c'est la mémoire des enseignements du Christ. Il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il agit comme un maître intérieur, mais pas un maître qui castre ses disciples. C'est un maître qu'il faut apprendre à écouter, sinon on n'entend pas. Et on n'en fait qu'à sa tête. Ou alors on demeure quoi ? Interdit, ne sachant que faire. Ce maître intérieur, c'est... Il nous permet de discerner la vérité dans toutes les circonstances. Il y a les lois générales. Mais il y a toujours le particulier nous oblige à intérioriser cette loi générale. Et toutes les lois évangéliques, nécessitent, en fonction des situations, cette intériorisation. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Vous voyez, il y avait ce projet au XVIIe de mettre dans une logique, dans un gros livre énorme, tous les cas de conscience possibles et imaginables. Alors, en fonction des circonstances. Alors les auteurs mettaient, c'est les jésuites qui avaient mis ça au point, la casuistique, l'étude des cas. Donc en fonction de chaque cas, il y avait... voilà ce qu'il faut dire au pénitent dans la confession. Est-ce qu'il est pleinement coupable ou est-ce qu'il peut être absous, etc., etc. Est-ce que c'est un péché mortel véniel dans telle circonstance? Ils essayaient un projet complètement insensé et qui, heureusement, a été complètement oublié. Mais on essayait là de se passer de l'Esprit Saint, mais tout bonnement. Or, Dieu veut que nous ayons une relation vivante avec lui. Ça n'intéresse pas qu'on ait une encyclopédie pour régler son comportement moral selon les circonstances. L'encyclopédie, elle est là, c'est l'Esprit Saint, l'encyclopédie. Et l'Esprit Saint agit par intuition. On a l'instinct de la foi, d'où cette formule, le sensus fidei, le sens des fidèles. Dans l'Église, il est très important, il est même vital. Beaucoup de pratiques religieuses ne sont pas venues d'en haut, ne sont pas venues du pape ou des évêques ou des prêtres, mais des fidèles. Et cette pratique, ensuite, est analysée, reçue avec prudence par l'Église, qui lui donne ou non une heureuse sentence. C'est le mois de Marie aussi. Marie ouvre nos cœurs à l'Esprit Saint, elle ouvre nos cœurs à Jésus. Et Marie est une fidèle par excellence, l'une d'entre nous, hein, c'est sans aucun doute. Elle n'a jamais fait partie de la hiérarchie ecclésiastique, et pourtant elle est le cœur de l'Église. Elle est la messagère de l'amour divin. En ce mois de Marie, n'oublions pas vraiment de méditer cette demande de consécration du monde à son cœur immaculé. Pourquoi est-ce que, parce qu'on, les us et les coutumes, dit-on, il suffit de passer au vote à l'Assemblée pour que une chose mauvaise devienne bonne, c'est facile. Les choses ne sont pas aussi claires que ça. Pourquoi Dieu demande-t-il une consécration du monde au cœur immaculé de Marie? C'est à Fatima, ça. Et parce que, comment dire, le péché, les mœurs, il y a des mœurs qui nous détournent de Dieu, et c'est dramatique parce que le salut, ainsi, échappe aux âmes. Voilà l'Église. L'Église, c'est vraiment, elle est là pour nous mettre en relation avec Dieu, pour nous faire entendre la volonté de Dieu. Alors peu importe si les défauts du clergé, par exemple, du moment que le clergé ne s'oppose pas à la tradition, qu'il entre et qu'il invite les fidèles à entrer par l'une des 12 portes de la Jérusalem nouvelle ou céleste, eh bien, même s'ils ne sont pas très malins, même si ils ont une double vie dans certains cas, disons les mots comme ils sont, peu importe leur travers, du moment qu'ils célèbrent toujours les sacrements de manière à ce que ces sacrements nous nourrissent, même si ces sacrements peinent à les nourrir eux-mêmes. Au cours de cette Eucharistie, eh bien, réfugions-nous dans l'idée que l'Église est divine. Mais que le fait qu'elle soit divine ne simplifie pas forcément les choses, elle nécessite notre participation à tous. Si on ne participe pas, elle a beau être divine, eh bien, elle restera un bâtiment muet devant lequel on passera en se demandant ce que ce musée peut être.